France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Ah, la fameuse marge d'erreur. Le bourbier des sondages décryptés le soir même d'un scrutin. Tout commentateur dehors, et souvent les mêmes qui tirent à boulet rouge après avoir étayé leur billet politique de ces chiffres, indices, échantillons et autres projections toute la campagne. Voilà bien longtemps déjà que la science politique a montré les limites des études sondagières. Et pourtant, les baromètres se portent bien. Ils n'ont d'ailleurs jamais été autant sollicités par les politiques eux-mêmes. Alors si pour vous, l'ironie des sondages évoque surtout la déconfiture d'un Édouard Balladur, pour la piqûre de rappel, les sondages le donnaient président en 95, il n'ira même pas au second tour. Eh bien écoutez cet archive de 1946. Paul Guimard consacrait une émission La Tribune de Paris aux instituts de sondage d'opinion, où il était déjà question de quelques errements.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Les deux dernières consultations nationales, référendum et élections, ont, de l'avis général, bousculé toutes les prévisions. Mais si l'on veut bien se souvenir que ces prévisions ont été notamment établies et publiées par les deux organismes qui se réclament en France du système Gallup, on comprendra que l'opinion éprouve aujourd'hui un certain scepticisme à l'égard des méthodes employées par ces organismes et des résultats obtenus à l'aide de ces méthodes.
Il s'agit, pour parler plus clairement, des erreurs commises à la veille du 5 mai et du 2 juin par l'IFOP, Institut français d'opinion publique, et par le SSS, Service de statistiques et de sondages.
Nous avons dans notre studio Max Barriou, directeur du SSS, Jean Stetzel et Alfred Max de l'IFOP. Ils vont être mis en accusation par Jacques Robérol, directeur du Parisien Libéré, et André Houlman, rédacteur en chef de la Tribune des Nations.
Paul Guimard va mener le débat.
Eh bien, messieurs, puisqu'il y a ici ce soir des partisans et des adversaires des organismes de sondage de l'opinion publique, nous allons donner d'abord la parole à l'accusation, si j'ose dire, puisqu'en somme c'est la forme juridique habituelle. Donc la parole est à Jacques Robérol.
Je ne suis pas en vérité un accusateur, je suis surtout un homme déçu. J'ai toujours été très bon public et même assez crédule. Mais après avoir renoncé aux cartes anciennes ou aux astrologues, j'avais cru pendant un certain temps que les instituts d'opinion publique pourraient me donner quelques prévisions, au moins sur un avenir immédiat. Eh bien, je suis obligé de constater que, au cours de l'année qui s'est écoulée, les erreurs de ces instituts d'opinion publique sont telles que je ne peux absolument plus avoir confiance dans ce qu'ils annoncent. Je vous demande la permission d'en citer quelques-unes de ces erreurs.
Je vous en prie.
En septembre, au début d'octobre 1945, à l'occasion du premier référendum, vous avez dit que 79% des Français étaient partisans d'une assemblée constituante, c'est-à-dire de répondre oui à la première question du référendum. En réalité, il n'y en a pas eu 79%, mais 94%. C'est tout de même une erreur importante et qui dépasse la marge d'erreur que, prudemment, vous vous êtes toujours réservé.
Je crois qu'il faudrait tout de suite arrêter. Alors, Max Barriou, je vous en prie.
Oui, c'est parce que, tout d'abord, ce n'était pas 79. Nous avons fait, c'était une enquête que nous avons faite bien avant, lorsqu'il n'était même pas question encore de référendum. Nous avons posé cette question, puisqu'on en parlait, on parlait de changer de constitution. Mais le jour où cette question a été posée d'une façon précise, à ce moment, nous avons fait une enquête, et là, nous avons trouvé tout à fait d'autres résultats. Nous étions dans les 90%. Nous avons fait une enquête, un sondage, un mois avant le référendum. Nous avons annoncé 90% en ce moment, c'est bien un mois avant le référendum, et remarquez, après notre sondage, il y a eu aussi le discours du général de Gaulle, ayant demandé que l'on vote oui, oui, et ce qui explique que nous étions légèrement en dessous du résultat du vote.
Alfred Max.
Les chiffres de Robérol me stupéfient littéralement. Je ne sais pas où il les a pris, car nous avons publié un placard la veille du référendum qui dit que la France répond dimanche au référendum à la première question oui 93%, non 7%, à la deuxième question oui 67%, non 33%. L'écart entre ces chiffres et la situation le jour du scrutin est insignifiant. Et ces chiffres ont d'ailleurs été publiés dans la presse parisienne.
Je ne pense pas, messieurs, que Jacques Roberol fonde son argumentation sur un seul exemple.
J'en ai en effet toute une série d'autres. Pour les mêmes élections, non plus le référendum, mais les élections législatives elles-mêmes,
Pour le référendum. Vous n'en avez pas d'autres. Vous avez bien suivi leurs résultats.
Oui, je veux bien admettre que vous soyez parvenu, encore que je n'ai pas les chiffres sous les yeux, au tout dernier jour, à des modifications qui étaient celles d'ailleurs, et je reviendrai sur cette notion, qui étaient celles de tous les gens sérieux de l'époque.
J'avoue que je suis extrêmement inquiet quant à moi, parce que
c'est André Ullmann qui parle.
Avoir tous ces chiffres sortir de toutes les poches et de tous les dossiers, je me demande combien on avait préparé de réponses avant le référendum. Et notre ami Roberol a eu simplement la malchance de tomber sur un mauvais chiffre. Et je remercie beaucoup notre ami Max de lui avoir donné aujourd'hui un chiffre, certainement pas rectifié après coup, mais un chiffre du dernier moment qui lui fait voir qu'il n'a pas su choisir.
Jean Stetzel, je demande, messieurs, que nous prenions tout de même acte de cet accord auquel nous sommes arrivés. Les résultats auxquels les instituts d'opinion publique, et notamment l'Institut français d'opinion publique, est arrivé en dernière minute, à la veille du référendum du 21 octobre, montrent que lorsque les circonstances sont favorables, c'est-à-dire lorsque l'opinion n'est pas mouvante, le diagnostic de la situation politique établi par des instituts de sondage peut être parfaitement exact. Les erreurs commises à ce moment-là étaient en moyenne de 2%, et c'est un résultat certainement très confortable qui devrait rassurer notre ami Roberol sur la différence qui existe entre les instituts de sondage et les astrologues.
Jacques Roberol.
C'est que je suis très inquiet par ce que vous venez de dire. Vous venez de parler d'une opinion qui n'est pas mouvante. Mais il me semble que la caractéristique même de l'opinion, c'est d'être mouvante. Et ce que nous vous demandons d'indiquer, c'est justement comment elle se meut. Si vous imaginez une opinion absolument immobile, alors c'est dans les cimetières qu'il faut aller la chercher. Et ça, vraiment, ça ne nous intéresse que très peu. Mais je voudrais bien qu'on me laisse citer encore quelques chiffres, encore que j'attende, bien entendu, que vous en sortiez de vos poches toute une série d'autres qui me confondront parce que je n'ai pas toutes vos publications et je n'ai pas pu les annoter toutes. Mais enfin, parlons des élections d'octobre.
Vous permettez d'abord...
Max Barieux, je vous en prie.
Vous avez soulevé une question. Vous dites, puisqu'il s'agit de faire des prédictions, parce que si on ne peut pas prévoir les événements qui doivent se produire, alors ce n'est plus la peine de faire ces opérations de sondage. Or, dans ces conditions, il faudrait supprimer tout ce qui est photographe, par exemple, et tout ce qui est opération photographique, parce que c'est une opération qui ne fixe qu'un instantané, quelque chose qui ne se reproduira peut-être plus jamais lorsqu'il s'agit d'une réalité vivante. Pourtant, une photographie a son utilité, même si l'image fixée doit par la suite se transformer et changer complètement d'aspect. N'est-ce pas ? Nous sommes une espèce d'objectif braqué sur une réalité vivante. Nous saisissons un instantané et à ce moment, nous vous disons, voilà ce qui s'est produit à tel moment et quel était l'état de l'opinion à un moment donné.
Écoutez, messieurs, voulez-vous que nous permettions à Alfred Max d'intervenir ?
Bien, monsieur Roberol a très justement dit que notre fonction était d'indiquer si l'opinion était mouvante ou non. Souvent, il n'y a pas de fluctuation dans l'opinion. Souvent, pendant une très longue période de temps, les fluctuations sont insignifiantes. C'est ce qui nous permet parfois de dire, parce que l'opinion est très stable, parce qu'elle est cristallisée, nous pouvons dire, eh bien, les chances sont que d'ici les quelques jours qui nous séparent du scrutin, il n'y aura pas de nouvelles modifications. Et alors, nous pouvons dire, nous faisons des prévisions. Par contre, nous pouvons aussi bien constater que l'opinion se meut très rapidement, qu'elle n'est pas cristallisée, qu'elle ne se forme pas. Et alors, nous disons dans nos résultats, et nous faisons particulièrement attention dans nos résultats, nous insistons sur ce point, nous ne pouvons pas faire de prédictions. Ce serait tromper le public que de dire à ce moment-là que nous sommes en état de faire des prédictions.
André, je vous en prie, continue.
En fait, pour les dernières élections, nous avons pu constater qu'après le référendum, le MRP, qui avait perdu une partie des suffrages qui étaient allés à lui aux précédentes élections, les a regagnés. Et nous avons montré le mouvement ascendant du MRP après le référendum. De même que nous avons montré le mouvement similaire du, en sens contraire, du PRL, qui avait pris un certain nombre de voix MRP à ce moment-là, et qui en a reperdu une partie au fur et à mesure que montait le MRP. Mais cela, c'est un mouvement que nous avons dû arrêter à notre dernière enquête, parce que nous ne sommes pas des magiciens, et nous ne pouvons pas continuer plus loin.
André Ullmann.
Je trouve les explications de Max extrêmement intéressantes. Cette espèce de définition des instituts de sondage comme étant une notation nouvelle de la chorégraphie me paraît en effet très convaincant. Toutefois, ça va me permettre de lui poser une question à laquelle je pense depuis le début de notre entretien. À quoi servent les instituts de sondage? Car enfin, Robérol semble se laisser circonvenir et accepter que les instituts de sondage ne soient que ce que Max veut bien les définir. Moi, je pense que les instituts de sondage pourraient avoir toutes sortes d'autres usages. Par exemple, j'envisage très bien un marchand de savon qui voudrait savoir s'il doit vendre plutôt du savon à la violette ou du savon à la rose et qui se servirait pour savoir quel est l'avis de l'opinion sur ce point des instituts de sondage. J'indique ça seulement pour bien marquer que la question ne me paraît pas du tout résolue, de savoir à quoi servent les instituts de sondage et de statistiques. Et c'est à nos amis de ces instituts que je pose maintenant la question.
Alors, Alfred Max.
Eh bien, il y a deux points. D'abord, je fais remarquer à Ullmann que Roverol, au début, a ouvert la discussion en disant qu'il regrettait de ne plus pouvoir se servir des instituts de sondage. C'est-à-dire que, apparemment, ces instituts lui avaient servi à quelque chose. À quoi ? Je crois qu'il faut d'abord établir.
Je vous en prie, Jacques Révérol, voulez-vous permettre à Jacques Révérol d'intervenir une seconde?
Jusqu'ici, ils ne m'ont servi qu'à me tromper et à me ridiculiser auprès de mes amis. Mais je crois, et je vais là vous donner partie gagnée, que je viens de comprendre, en effet, à quoi servaient les instituts d'opinion publique. C'est-à-dire qu'ils sont comme les baromètres. On a tort de demander au baromètre quel temps il fera dans 2 heures, ou le lendemain, bien sûr. Ils servent à vous dire si actuellement il pleut ou il ne pleut pas. On peut répondre que d'ailleurs, il suffirait de tendre la main pour le savoir. Enfin, ça peut être une satisfaction que d'avoir un appareil pour vous le révéler. Les instituts d'opinion publique, je le sais maintenant, ne servent à rien d'autre.
Alfred Max, je vous en prie.
Nous aimons beaucoup cette comparaison avec le temps, car en effet, nous considérons que le rôle d'un institut est assez semblable à celui d'un office national météorologique. Mais je crois remarquer qu'on se sert d'un office national météorologique et on utilise ses bulletins. Et si on est parfois sceptique, néanmoins dans l'ensemble, on suit avec attention les bulletins quotidiens de l'ONM. Mais d'une façon plus générale, je crois, vous avez dit, il suffit pour voir s'il pleut de tendre la main. Je voudrais bien savoir à quoi correspond cette métaphore dans le domaine de l'opinion publique. On voyait quand il n'y avait pas d'institut d'opinion publique, vous voyiez des journaux dire, ou des hommes politiques dire, le pays veut ceci, le pays veut cela. Et personne ne savait à ce moment-là lequel des deux avait raison.
Pensez-vous que les instituts de sondage,
c'est André Ullmann qui intervient,
ne permettront plus aux hommes politiques de dire le pays veut ceci ou le pays veut cela?
Est-ce que je peux répondre?
Jacques Révérol, je vous en prie.
Je crois que non seulement les hommes politiques continueront à le dire, mais qu'ils auront raison de le dire, et qu'ils le savent tout aussi bien que les instituts d'opinion publique. Je constate d'ailleurs que les prévisions, je reprends le mot prévision, de vos instituts sont étrangement semblables en ce qui concerne les élections aux prévisions du ministre de l'Intérieur. Rassurez-vous, je ne prétends pas que vous émargez au fond secret, ni même que vous êtes des agents du service des renseignements généraux.
Merci.
Je veux dire simplement que, en ce qui concerne la prévision des résultats des élections, vous n'êtes rien de plus et rien de moins d'ailleurs que ce qu'est tout homme raisonnable et bien informé. Je range le ministre de l'Intérieur dans cette catégorie. Et comme tout homme raisonnable et bien informé, et comme tout ministre de l'Intérieur, vous vous trompez à tout coup, mais ni plus ni moins, et dans les mêmes proportions.
Max Barrio.
Ullmann, vous m'étonnez. J'avais l'impression, je l'aurais peut-être encore, que vous êtes un esprit scientifique. Votre question m'a beaucoup étonné. Vous dites, quelle est l'utilité, n'est-ce pas, vous se placer dans la situation que les organismes de sondage travaillent bien. Dans cette hypothèse où leurs sondages sont valables, vous posez la question, mais quelle serait l'utilité des organismes de sondage pour connaître quelque chose, pour connaître la vérité, pour connaître la réalité actuelle? Vous dites, quelle est l'utilité? Est-ce que lorsque les astronomes étudient les protubérances solaires, ça sert à quoi? Lorsqu'on étudiait il y a 20, 30 ans, dans le détail, la structure intime des atomes, on pouvait se demander, les esprits non scientifiques pouvaient se demander à ce moment, mais ça sert à quoi, voyons? Ça ne fait pas pousser les rutabagas, et ça nous... Mais pourquoi perdre son temps avec des études tellement absurdes? Or, c'est la... Déjà, ne serait-ce que pour la vérité scientifique. Connaître, ça dit tout. Et c'est déjà une raison suffisante pour que nous existions. C'est pour connaître quelque chose qui ne se voit pas à l'œil nu.
Je suis ravi.
Vous vous posez dans la situation que les organismes de sondage travaillent bien.
André Ullmann.
Je suis ravi de vous avoir amené à ce point, car la question qui est ainsi posée est une de celles que je voulais poser dès le début. C'est tout le problème de l'application des sciences, et en particulier des mathématiques, aux sciences humaines. Et là, je me tournerai maintenant vers Stutzel, en lui racontant d'abord une petite anecdote et en lui demandant ensuite son point de vue sur la question. Il s'agit d'un homme qui depuis a fait son chemin, puisque c'est de M. Jacques Rueff qu'il s'agit. Il avait publié, il y a une quinzaine d'années, une brochure s'intitulant « L'assurance chômage, cause du chômage permanent en Grande-Bretagne ». Il l'avait fait grâce à des statistiques, à des calculs, et j'avais remarqué que dans un de ces calculs, une constante était interprétée comme si elle pouvait subir des variations. Si bien que j'avais repris tous les calculs de M. Jacques Rueff, en remplaçant simplement cette constante par la hauteur de la tour Eiffel, et que j'avais écrit à mon tour une brochure qui s'intitulait « La rigidité des armatures métalliques, cause du chômage permanent ». Je vous cite cette anecdote parce que la manière dont le problème est posé maintenant fait que ce qui est en cause, ce ne sont même plus les résultats obtenus par les instituts de sondage et de statistiques, mais c'est le problème de l'interprétation de ces résultats. Et là, je crois que nous entrons dans le problème de fond.
Vous n'avez pas répondu à moi.
Il a tout au moins posé une question à Jean Stetzel, et comme le temps nous presse, je demandais à Jean Stetzel d'y répondre rapidement.
Je suis parfaitement d'accord que l'étude des opinions, d'une manière plus générale, n'est pas capable actuellement de résoudre absolument tous les problèmes qu'on lui pose. Grâce au ciel, la science n'est pas terminée. Mais il faut ajouter que, en ce qui concerne nos techniques d'échantillonnage, nous estimons qu'elles sont relativement très bien au point. Et nous l'avons déjà montré en une occasion au moins. En ce qui concerne les autres, la discussion nous entraînerait beaucoup trop loin. Je veux simplement terminer sur cette observation à laquelle, je crois, vous souscrirez. L'étude de l'opinion publique par les instituts d'opinion supplée à un manque d'informations objectives et précises dans les intervalles des élections.
D'accord, à condition de savoir que même sur ce point, tout cela reste très conjectural.
Si Jacques Rébérol, voulez-vous que nous laissions Jean Stetzel terminer?
Et de plus, alors sur beaucoup d'autres problèmes pour lesquels on n'aurait jamais les réponses de l'opinion publique, les instituts d'opinion font connaître quelle est la situation au jour le jour. Qu'il s'agisse de questions économiques, qu'il s'agisse de questions sociales, qu'il s'agisse de questions psychologiques qui ne sont jamais mises en cause au cours des élections. Les publications des instituts d'opinion, dont la presse s'est jusqu'ici fait, à mon avis, à juste titre, l'écho, reflètent l'état de l'opinion et présentent ainsi au public, en quelque sorte, son propre visage dans un miroir. André Ullmann.
Je crois que nous serons d'accord, donc, pour dire que il ne convient pas de demander aux instituts d'opinion publique de remplir un rôle pour lequel ces instituts ne sont pas faits. Mais, à mon tour, je demanderai à nos amis de ces instituts de ne pas laisser croire dans le public, comme peut-être ils ont eu la faiblesse à certains moments de s'y laisser entraîner, que ces, leurs organismes pouvaient précisément remplir ces rôles qui les dépassent.
Max Barriou du SSS, Jean Stetzel et Alfred Max de l'IFOP, Jacques Roberol, directeur du Parisien Libéré, et André Ullmann, rédacteur en chef de la Tribune des Nations, viennent de vous parler des méthodes et des résultats des galops français.
Vous venez d'entendre la Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion française.
C'était la Tribune de Paris, une archive du 14 juin 1946, à podcaster pendant un an ou à réécouter pour toujours sur franceculture.fr.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable and photographable, yet you're my favorite. Stay, little Valentine, you stay, 'cause each day is Valentine's Day. Yo, yeah. Tu papa, ya, yeah, ya, yeah.